VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Politique en RDC, l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi a quitté Kinshasa aujourd'hui pour Bruxelles pour des raisons médicales, alors que son parti négocie avec la majorité soutenant le président Joseph Kabila un partage du pouvoir jusqu'à la prochaine présidentielle dans le pays. Le départ du vieil opposant affaibli pourrait compliquer ces négociations destinées à permettre une sortie pacifique à la crise politique provoquée par le maintien au pouvoir du président Kabila au-delà du terme de son mandat qui a expiré depuis le 20 décembre. Au Burundi voisin, plus de 300 prisonniers, dont 58 militants du parti d'opposition Mouvement pour la solidarité et la démocratie MSD d'Alexis Sindouidje, aujourd'hui en exil, ont été libérés hier de la principale prison de Mpimba à Bujumbura par grâce présidentielle. Au total, 2500 prisonniers sont concernés par cette décision du président Pierre Nkurunziza. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
L'agence Élysée sur les filles, femmes et jeunes hommes qui venaient de passer presque 2 ans dans la principale prison de Bujumbura, Mpimba, dans les quartiers de Moussaga au sud de la capitale. Certains avaient été arrêtés le 8 mars 2014 alors qu'ils étaient en réunion dans leur permanence nationale. Ce jeune homme, surnommé Moto, est parmi les 300 personnes libérées. Il ne cache pas sa joie, mais demande que la grâce présidentielle s'étende d'autres prisonniers qui sont plus de 10 000 dans les différentes geôles du Burundi.
Je suis très content de la grâce présidentielle qui vient de nous libérer, de nous pardonner. Nous étions innocents. Nous sommes très contents. Mais nous avons des frères qui ont été incarcérés pendant les manifestations d'avril 2015. On les a traités de rebelles qui ont attaqué des camps alors que ce n'est pas vrai.
13 prisons du Burundi qui ont une capacité d'accueil de plus de 4000 détenus contenaient l'année 2016 une population pénitentiaire de presque 10 000 personnes, soit plus de la moitié. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Somalie, 4 soldats somaliens au moins ont été tués et 5 autres blessés ce mardi lorsqu'une bombe a explosé en bordure de route près d'une base militaire. C'est ce qu'ont annoncé les autorités somaliennes. L'attentat revendiqué par les milices islamistes Shebab a eu lieu dans les environs de Mogadiscio, la capitale, au lendemain d'une attaque menée au même endroit par les insurgés et que l'armée somalienne avait repoussée.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Gambie, une ancienne ministre du régime de Yahya Jammeh, nommée vice-présidente du pays par le nouveau président gambien Adama Barrow. Ce dernier est toujours au Sénégal voisin, il y est depuis le 15 janvier, et la date de son retour reste encore inconnue. Jean-Roger Bion.
Malgré le départ en exil de Yahya Jammeh samedi soir, qui a mis fin à 6 semaines d'une crise provoquée par son refus d'accepter les résultats de la présidentielle, la date du retour en Gambie du nouveau chef de l'État n'était toujours pas connue lundi. Mais M. Barrow a commencé les consultations pour désigner son équipe et a nommé à la vice-présidence une responsable de sa coalition, Fatoumata Diallo Tambajang, a annoncé lundi son porte-parole Ali Fassala à la presse à Banjul. Militante des droits des femmes ayant notamment travaillé pour l'ONU, Mme Tambajang a été ministre de la Santé durant la présidence de Yahya Jammeh de 1994 à 2017. Elle est une des responsables de la coalition qui a soutenu la candidature d'Adama Barrow, élu le 1er décembre dernier. Fatoumata Diallo Tambajang succède à une autre femme, Aissatou Ndiaye Saïdi, qui était vice-présidente depuis 1997. Aucun calendrier n'était encore disponible sur les prochaines nominations, alors que selon le conseiller de M. Barrow, Maï Fati, les conditions de sécurité sont encore insuffisantes pour son retour.
Au Niger, les travailleurs des collectivités territoriales de la capitale Niamey ont entamé hier une grève de 5 jours. Ils entendent par ce débrayage exiger le paiement de 6 mois d'arriéré de salaire. Le mouvement a commencé par un sit-in à l'hôtel de ville de Niamey. Reportage de notre correspondant sur place, Abdoul Razak Idrissa.
Les travailleurs des 5 arrondissements communaux et de la mairie centrale de Niamey sont à leur énième mouvement de grève. Ali Gatti est le coordonnateur des 5 syndicats des travailleurs des municipalités de la capitale.
Tout le monde en a marre. Tout ce qui va se passer n'a qu'à se passer. Tout le monde est prêt. Parce que pour la mort, on n'a pas peur parce qu'on est déjà mort. À la maison, on est des femmes. Devant nos femmes, nous aussi, nous sommes des femmes parce qu'un responsable d'une maison qui ne donne pas les frais de Kouanemali aussi, il devient une femme.
Puisque leur autorité hiérarchique directe enquête ne semble pas avoir de solution. Certains sollicitent une implication à un niveau beaucoup plus élevé.
On voulait rappeler au président de la République, Mohamed Issoufou, qu'il pense à nous. Pitié, 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 pitié. 7 mois sans salaire, c'est pas 7 jours.
Cette situation-là est très difficile, est très, très difficile. Si vraiment le président peut intervenir dans cette histoire-là, il n'a qu'à intervenir parce qu'on ne peut pas vivre et travailler pour l'État pendant 7 mois sans avoir le salaire.
Abdullah Razak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon. On connaît maintenant l'affiche des deux premiers quarts de finale. Ce sera Burkina, Tunisie et Sénégal, Cameroun. Ce mardi, deux matchs importants. Le à Oyem et le second à Port-Gentil. Nicolas Pineau.
Place au groupe C ce mardi. À Oyem, le champion en titre ivoirien joue sa qualification face au Maroc et les Ivoiriens qui ont impérativement besoin d'une victoire. Les deux équipes n'ont pas encore brillé dans cette compétition, peut-être sur le dernier match. Écoutons d'abord le sélectionneur des éléphants, Michel Dussuyer.
Comme j'ai dit aux joueurs, on joue un huitième de finale. On est tous conscients que c'est un match couperet, comme les matchs qui vont suivre après derrière. Ce sont des matchs couperets, on est conscients de ça. Je pense qu'on a aussi du répondant, on a des qualités à faire valoir. C'est vrai qu'on a démarré doucement dans ce tournoi. J'ai des signes positifs parce qu'on est monté en puissance au fur et à mesure du temps de jeu. Donc il faut qu'on s'appuie sur nos forces avec notre mental, en ajoutant le côté mental, parce que ce sera vraiment déterminant.
Écoutons à présent l'analyse d'Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, qui était en 2015 le sélectionneur des éléphants champions d'Afrique.
C'est l'état d'esprit du groupe qui est associé à la qualité des joueurs, bien sûr, fait qu'on peut aller très loin dans une compétition. L'état d'esprit, ça regroupe solidarité, ne jamais baisser les bras lorsque vous avez des moments un petit peu plus difficiles. C'est la clé de la réussite, parce que dans une CAN, il y a toujours des moments un peu plus difficiles que d'autres. On le voit pour toutes les équipes, donc il faut être soudé. Les personnes qui se dispersent en pensant individuellement, il faut toujours avoir une pensée collective. Enfin, c'est ma façon de voir comment doit vivre un groupe pendant une compétition.
Autre affiche de ce groupe, à Port-Gentil, la République démocratique du Congo, leader avec 4 points, affronte le Togo, dernier avec 1 point. Un nul suffit au Léopard pour se qualifier. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre partenaire.
Alors qu'il leur suffit d'un simple nul pour valider leur qualification pour les quarts de finale, les Léopards veulent absolument gagner le match de ce mardi contre les Éperviers du Togo afin d'éviter toute mauvaise surprise. Florent Ibengue.
C'était un match décisif. On sait qu'avec un nul, on est qualifié, mais on ne va pas penser à ça. On va rentrer sur le terrain avec l'envie de gagner.
Vous avez vu le Togo par deux fois. Comment battre cette équipe?
En jouant. Il faut qu'on joue, qu'on reste nous-mêmes, solides derrière, créatif au milieu et puis décidé et réaliste devant.
Les Togolais, eux, après un nul et une défaite, n'ont pas une autre alternative que de s'imposer pour passer. Claude Leroy l'a dit ce lundi à Port-Gentil.
C'est notre dernière chance. On sait que la seule façon de nous qualifier pour les quarts de finale, c'est de gagner contre la RDC. Maintenant, on sait que la qualité de cette équipe, sa puissance athlétique, ce qu'ils ont montré contre la Côte d'Ivoire, mais bon, on sait très bien que la Kananga, Mbokane, la vitesse de Goubélé, je crois qu'on a complètement décrypté cette équipe, on la connaît bien, on va essayer de brouiller les cartes et de faire un gros match.
Port-Gentil, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Merci Nicolas Pineau. À noter que le sélectionneur belge de l'Algérie, Georges Leekens, a annoncé aujourd'hui sa démission pour le bien de tous au lendemain de l'élimination des Fenech au premier tour de la CAN 2017 au Gabon. C'est ce qu'a annoncé la Fédération algérienne de football. Les autres membres du staff technique de l'équipe d'Algérie partiront eux aussi, a indiqué de son côté à l'agence de presse APS le directeur des équipes nationales, Walid Sadi. Les Fenech, qui n'avaient plus leur destin entre leurs mains, n'ont pu faire mieux qu'un nul de partout face à un Sénégal largement remanié lundi soir lors de la dernière journée du groupe B. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.